contraste est grand, frères et sœurs, entre l'évangile de ce jour, la parabole de ce jour, et les trois paraboles que nous avons entendues dimanche dernier. Souvenez-vous, un exercice, un dimanche sur l'autre, la miséricorde de Dieu à travers la parabole de la brebis perdue, la pièce d'argent, et puis bien sûr, le fils prodigue. Le contraste est grand parce que Jésus nous parlait dimanche dernier donc de la miséricorde, du cœur de Dieu, et c'était limpide, lumineux, aucun mal à comprendre le sens de ces paraboles. Et puis aujourd'hui, Jésus nous donne une autre parabole qui suit directement dans l'évangile de Saint-Luc. On passe du chapitre 4 au chapitre 16, tout simplement. Or, cette parabole, elle est beaucoup plus compliquée. On n'en comprend pas bien le sens. On s'étonne d'ailleurs même que Jésus nous donne en exemple la malhonnêteté d'un gérant. L'habileté, plus que la malhonnêteté, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, pour commencer, ça veut dire que quand Jésus veut nous parler de son Père, de la miséricorde, de l'amour de Dieu, c'est limpide, c'est facile à comprendre, c'est simple. Et quand Jésus commence à nous parler de notre cœur, c'est plus compliqué. Non pas qu'il s'en mêle les pinceaux, mais effectivement, c'est plus compliqué à comprendre. Oui, c'est pas moi qui le dis, ça fait partie de ce qui est dit dans les livres de la sagesse. Le cœur de Dieu, Dieu est saint. C'est le cœur de l'homme qui est compliqué. Et donc, ne nous étonnons pas tellement de cette complication qui arrive. Alors réfléchissons, qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cette parabole du gérant malhonnête. En préparant l'évangile, enfin l'homélie de ce jour, je me suis dit, on a eu de la chance, on a échappé belle. Il y a 15 jours, on aurait pu avoir cet évangile-là au moment de l'installation du nouveau curé. Probablement pas très facile pour l'archevêque d'expliquer la gestion d'une paroisse avec la parabole que Jésus vient de donner. Ceci dit, il y a très exactement 21 ans, c'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais installé dans la paroisse où j'étais au Tchad. C'était cet évangile-là, je me souviens encore. Il a fallu un peu une pirouette dans l'homélie par l'archevêque de l'époque. Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Jésus, déjà, qualifie de malhonnête la gestion de cet homme. Donc n'allons pas trop vite en disant que Jésus donne un mauvais exemple en exergue. Non, non. La gestion de cet homme est malhonnête. Pourquoi est-elle malhonnête? Doublement, j'ai envie de dire. D'abord parce qu'il dilapide ce dont il a la charge. Et s'il dilapide, on imagine que c'est un peu comme les collecteurs d'impôts de l'époque, les publicains de l'époque, il en met un peu dans sa poche. Et donc il est malhonnête en ce sens, il utilise ce qui n'est pas à lui, à son profit. Et puis il est doublement malhonnête, parce qu'au moment où on lui dit « tu es démasqué », sa malhonnêteté s'amplifie d'une certaine manière, puisqu'il continue dans la malhonnêteté, non plus pour lui, mais pour les autres. « Combien dois-tu à mon maître ? Assieds-toi vite, écrit, petite réduction. » Voilà. Et cette malhonnêteté, Jésus nous dit, bien, elle est malhonnête, mais elle est aussi habile. Il s'en sort pas mal quand même. Pourquoi est-ce qu'il s'en sort pas mal ? Parce que quand il s'agit des biens terrestres, des biens matériels, ce que Jésus nomme sous la dénomination de l'argent, mais c'est pas simplement la monnaie sonnante et trébuchante, c'est plus que ça. Quand il s'agit de gérer ces biens-là, nous nous y entendons bien. Nous savons veiller à ne pas nous faire arnaquer. Nous savons faire tourner les choses à notre profit. Nous sommes habiles, habiles pour cette gestion des biens matériels. Peut-être d'ailleurs, pourrons-nous remarquer, c'est probablement pas l'intention première, mais dans la deuxième lecture, il est fait mention par saint Paul, dans les conseils qu'il donne à son disciple Timothée, d'inviter à la prière pour les chefs d'État et ceux qui exercent l'autorité, ceux qui gèrent la société. On pourrait englober tous ceux qui ont des responsabilités et politiques et sociales, quelles qu'elles soient. Comment gérons-nous les choses qui nous sont confiées pour le bien de tous ? Comment sommes-nous gérants du bien commun? Effectivement, il est nécessaire de prier pour que cette gestion soit juste et non pas que nous instrumentalisions, que nous profitions de ce qui nous est confié comme à des gérants pour notre profit. Ça vaut dans tous les domaines de responsabilité. Et puis, il y a plus grave encore, ce que souligne la première lecture, on s'entend pour gérer les choses matérielles et les faire tourner à notre profit, et Amos, le prophète Amos, dénonce l'attitude de ceux qui, dans le peuple, non seulement gèrent leurs biens, leur profit, mais même amoindrissent ce qui vient de Dieu, ce qui appartient à Dieu. Ce qui font que leurs affaires personnelles prennent plus d'importance que les affaires de Dieu. Lorsque vous êtes à prier, vous avez hâte que votre prière finisse pour retourner à votre petit commerce, dit-il. Vous insultez Dieu de cette manière-là. Votre business, c'est pas dit comme ça, mais ça pourrait. Votre business est plus important à vos yeux que ce qui est de l'ordre de Dieu. Alors déjà, donc Jésus nous invite à être attentif à la manière dont nous gérons les choses matérielles. On pourrait dire, hein, l'argent, c'est bien matériel. À un moment, Jésus dit l'argent malhonnête dans la parabole. Est-ce l'argent qui est malhonnête? En soi, non. Les biens matériels n'ont pas d'honnêteté ou de malhonnêteté en soi. Ce qui est honnête ou malhonnête, c'est la manière dont nous les gérons. C'est la manière de les acquérir. Ça commence par là, souvent. C'est la manière de les gérer au quotidien. Voilà où est l'honnêteté et la malhonnêteté. Et là encore, nous savons bien faire tourner cette neutralité des biens matériels à notre profit. Donc, première leçon, soyons attentifs que même ce qui est matériel soit honnête devant Dieu. La gestion de ce qui est matériel soit honnête devant Dieu. Deuxième chose, me semble-t-il, deuxième leçon de cette parabole, deuxième sens de la compréhension, c'est bien sûr finalement comme une question. Qu'est-ce qui compte dans notre vie? Quel est le trésor de notre existence? Quel bien avons-nous conscience d'avoir à gérer? Est-ce seulement le bien matériel ou y a-t-il plus grand? Bien sûr, plus grand que la dimension matérielle, il y a ce qui vient de Dieu et qui concourt à notre salut. Jésus fait mention des demeures éternelles. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête afin qu'il vous accueille un jour dans les demeures éternelles. Ah oui, frères et sœurs. Le sens de notre vie n'est pas juste terrestre. Le sens de notre vie, il est d'être orienté vers l'éternité. Il est d'avancer, de cheminer vers cette éternité. Et ce ne sont sûrement pas les biens matériels, ou alors leur utilisation de manière généreuse peut-être, mais en règle générale, ce ne sont pas d'abord les biens matériels qui nous acheminent vers l'éternité. C'est bien la grâce de Dieu, la vie de Dieu en nous. Avant même d'être gérant de biens matériels, nous sommes tous gérants de la vie de Dieu en nous. La nôtre, et bien sûr celle des autres. Je pense à commencer par cette grande œuvre humaine qu'est l'éducation des enfants, où des parents se voient confier la vie de Dieu en cet être auquel eux-mêmes ils ont donné vie. Un vrai sens des responsabilités. Et donc, ce que Jésus veut nous dire, c'est soyez habiles dans la gestion des biens spirituels. Ne vous contentez pas d'être habiles au plan matériel. Quel maître servez-vous? Nous dit Jésus. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous devez, on pourrait dire mettre une échelle de valeur, mais c'est plus que ça. Vous devez vous attacher au vrai maître. Sinon, vous vous perdrez. C'est une forme aussi, une manière aussi de comprendre les paraboles de Jésus. Une clé de compréhension. Ce n'est pas simplement d'entendre l'histoire et d'y trouver une morale, comme dans les fables de La Fontaine. C'est de chercher où se cache le Christ dans cette parabole. Parfois, c'est très simple. Quand Jésus dit « Le semeur est sorti pour semer », on sait que c'est lui le semeur. Quand on entend les paraboles de la miséricorde comme dimanche dernier, on devine où se cache le Christ, lui qui est celui qui nous donne cette miséricorde, qui nous l'obtient. Mais aujourd'hui, où est le Christ dans cette parabole? Alors, on entend bien qu'il y a un maître qui juge. On pourrait dire qu'il est par là, il se cache de ce côté-là. Peut-être ailleurs, dans les biens que nous avons à gérer. Quel est ce bien que Jésus nous remet? C'est son évangile. C'est la bonne nouvelle du salut. C'est sa vie. C'est lui, finalement, le bien qu'il nous faut gérer. C'est lui en nous. Ma vie, dit saint Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et voilà ce qui est confié à notre gestion. Comment prenons-nous soin du Christ en nous? Et comment faisons-nous fructifier cette présence de Jésus, cette vie de Dieu en nous? Voilà ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Non seulement une affaire d'échelle de valeur, mais finalement l'attachement au plus grand des biens. C'est le grand mystère de la vie chrétienne. Il faut toujours écouter dans la parole de Dieu et trouver le secret finalement qui nous fait avancer d'un pas de plus dans la vie chrétienne. Quel est ce grand mystère? C'est que Dieu nous donne sa grâce, jusque-là nous le savons, sa vie, et que la grâce de Dieu rencontre en nous quoi? La liberté, notre liberté. Et c'est l'alliance de la grâce de Dieu et de notre liberté qui fait que nous produisions du fruit pour le royaume, qui fait que nous avançons vers le royaume. Demandons au Seigneur que nous recevions ces dons, que nous le recevions, lui le Christ, nous allons communier à cette messe, et que notre liberté soit tout entière d'adhérer à sa présence. Et alors, nous avançons vers les demeures éternelles. Amen.